Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs.
Hey, you talking to me?
Vers l'infini et
au-delà! Salut à tous, bienvenue à l'épisode 14 de Kifilm, que vous pouvez retrouver sur kifilm.fr et dans le site sur lequel on vous parle donc de culture, livres, BD, jeux de société, cinéma et séries. Et ce soir, autour de la table, pour un podcast spécial livre, j'ai ATLZA qui dira,
qui fait acte de présence.
Voilà, qui donnera sa, qui mettra sa petite graine. Et puis Juke.
Salut.
Et Monsieur Lourdes.
J'ai coincé sur la petite.
Bonjour.
Et moi-même Docteur Mad Geek. Et ce soir, on va vous parler de deux approches différentes de l'aventure spatiale en BD. Et puis quelque chose de plus terre à terre avec des Yakuza pour un roman. Et je laisse la parole tout de suite à Juke qui va nous parler de
Shangri-La. Salut. Ouais, je vais vous parler de la BD Shangri-La que j'ai découvert comme ça en furetant dans une librairie, qui est apparemment quasiment un best-seller. Je suis pas très spécialiste de BD, mais a priori ça s'est très très bien vendu. Ça,
on l'a tous
ça...
lu. Hein. Tu n'étais pas là au dernier podcast livre, mais Guillaume nous l'a recommandé. Donc
Tu vois, je suis tombé dessus.
C'est
sans
un teasing en fait de ce nouveau épisode.
Incroyable.
Ouais, je suis tombé dessus sans la recommandation de Monsieur Lours, comme quoi. comme quoi. Qui a été faite par un Français. Vite fait, le synopsis, on est dans un futur assez éloigné, la Terre est inhabitable, donc le reste de l'humanité vit dans une station spatiale qui est gérée par une entreprise qui s'appelle Tianzhu, je crois. Oui, Tianzhu, c'est ça. Tianzhu, et on suit plusieurs personnages avec plusieurs destins. En fait, il y en a un qui enquête sur des tas de choses pour Tianzhu. On suit des rebelles qui veulent se rebeller contre l'entreprise Tianzhu qui gère la station. Et on suit des scientifiques aussi qui cherchent à créer une nouvelle race d'êtres humains pour coloniser le satellite de Jupiter que j'ai bouffé. Je crois que c'est Encelade. Je ne sais plus. À vérifier. Bref, voilà, on suit tous ces gens-là. La BD est très belle, vraiment le dessin est chouette. Je la file à ceux qui veulent le regarder. Il y a un vrai dessin, il y a un vrai parti pris, il y a des vraies couleurs partout. Enfin, c'est quand même pas mal du tout. Le scénario est pas mal. Moi, quand je l'ai acheté, je cherchais du space opéra, de l'histoire. On me l'a conseillé parce qu'elle était quand même assez plébiscitée récemment. J'ai eu un petit souci quand même avec cette BD, avec le scénario. En fait, le fond de l'histoire, ça va être de critiquer l'entreprise à tout va, le fait d'être fliqué par les entreprises, il y a une critique à peine déguisée de il faut absolument avoir le dernier téléphone parce que Tianzhu du coup fait des téléphones dans la station. Il y a une critique à peine déguisée de Apple et des gens qui font la queue dans clairement, les magasins pour avoir le dernier téléphone Tianzhu. Voilà, alors tout ça je l'ai entendu, je trouvais ça pas mal, mais c'était un petit peu grossier comme critique, quoi. C'était un petit peu facile, c'était un peu premier degré de critique de toutes ces choses là voilà, c'est du coup je suis resté un petit peu sur ma faim parce que ouais, à cause de cette critique qui manquait de corps, quoi. Enfin, c'était un peu trop facile. Je vais pas spoiler la BD pour avoir la fin de l'histoire, mais après le reste, le développement est pas mal, l'interaction des personnages avec cette histoire de nouveaux humains, ce qui se passe en arrière-plan, tout ça, c'est pas mal. Mais toute la BD pendant tout le long, l'auteur critique la société de consommation. Ça peut s'entendre, j'ai absolument aucun problème avec ça. J'aime pas trop la manière dont il la critique. J'ai un peu l'impression d'être devant un manifestant un peu bas du front. Qui me critiquait parce que j'ai regardé une émission sur TF1, quoi. Et ça me posait un peu problème, quoi. Voilà, je suis le seul à l'avoir lu.
Non, moi je l'ai lu aussi. Moi je l'ai lu il y a quelques temps de ça. Parce que tu vois, je regarde sur Kifim et je l'avais commenté le 1er janvier 2018. Donc tu vois, ça date, ouais, un petit peu. Je l'avais mis 7 et finalement ma critique rejoint assez ce que tu disais. Donc je disais, des images, des planches superbes avec de très très belles pleine planche en pleine page, voire en double page.
Vraiment.
Moi, c'est quelque chose qui me parle et que j'avais beaucoup aimé. J'ai
déjà mis ça en valeur. Il y a un vrai parti pris dans le dessin et quelque chose de pas mal du tout.
C'est quelque chose que j'ai déjà mis en valeur sur d'autres BD dont on a parlé précédemment, de Prune, dont je suis fan, mais aussi, la dernière fois, j'avais parlé des Brûlures, qui était une BD qui m'avait pas plu, mais où j'aimais bien ce concept de grande illustration. Ouais. Donc ça m'a bien plu. Et par contre, ce que je disais, c'est effectivement le scénario qui, pour moi, au fur et à mesure de la BD, en fait, s'essouffle complètement pour être de moins en moins captivant.
Ouais.
Alors on tombe pas à la fin sur quelque chose de négatif, hein, mais voilà, ça s'essouffle un peu dans la longueur. Voilà. Ouais.
Un scénario classique, en fait, je pense. Il y a pas de grosses surprises dans tout ça. La fin est quand même assez sympathique, même si elle a été déjà vue. Elle est quand même assez marquante, je trouve. Après, je veux pas paraphraser ce que vous avez dit. Tout est effectivement excellent dans le dessin, il y a une science de l'architecture qui est assez cool.
Ouais.
Et l'univers est assez sympa, tu l'as pas mentionné, mais il y a un mélange sur cette station d'humains et d'humanoïdes animaux.
C'est vrai qu'ils ont créé
qui est donc une sous-race, donc il y a aussi tout un sous-texte un peu de lié du racisme, etc.
Voilà, ouais, ça parle aussi des droits sociaux, du racisme et tout, mais c'est pareil quand il le fait, c'est un petit peu grossier quoi, c'est un petit peu facile quoi.
Et je me souviens plus si c'est genre plein d'animaux ou si c'est juste les chiens.
Je crois que c'est que les chiens.
Ouais, donc il y a vraiment
les chiens qui sont maltraités par le reste de la population parce que c'est une sous-race, et du coup, ça fait un appel qui est pas déguisé du tout, sur les luttes des droits sociaux, sur les Afro-Américains, le racisme, sur tout ça, et qui est amené un peu trop grossièrement. C'est ultra louable ce qu'il dit dans cette BD. C'est juste la façon dont il le traite qui est un petit peu facile, un petit peu grossière, quoi.
Docteur Madic, tu l'as lu aussi, il me semble.
Moi, j'en garde un très bon souvenir, mais c'est vrai que tu peines un peu sur le dernier tiers de la BD.
Là, parce que ça se répète en plus.
Je l'ai sous les yeux et je pense que, enfin, pour rebondir sur.
C'est quand même un travail de malade au niveau du dessin.
Le commentaire d'ATLZA. Il y a très peu en fait de grandes pages d'illustration. Il y en a 4 ou 5 à tout péter.
Non, mais elles sont bien. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus.
Mais cela dit, elles sont marquantes, quoi.
Ouais,
elles sont marquantes et il y a une poésie aussi dans sa façon de dessiner les choses. T'es dans d'être tout seul face à l'immensité, ces trucs un peu regarder vers les étoiles. Est-ce qu'on est le produit des explosions interstellaires et tout ça, machin. Il y a vraiment pas mal de poésie. Moi, j'avais bien aimé et je pense que, c'est un best-seller à avoir dans sa BD Tech. C'est une œuvre complète qui se tient bien.
C'est un one-shot.
Je l'ai beaucoup critiqué. On a l'impression que j'ai un avis négatif dessus. J'ai un avis plutôt positif dessus, quoi. J'ai juste trouvé que cette fameuse critique de la société de consommation est un petit peu grossière dedans, quoi. Et qu'il a tendance, en plus, à la répéter dans toute la BD, quoi.
Pour l'instant, il y a combien de notes, là, sur Kifim?
Il est noté en moyenne, je suis plus dessus.
Parce qu'on va peut-être, on va s'y mettre si on l'a pas noté, hein, monsieur l'ours.
Je pense qu'il devait être à 7, il me semble.
Ok.
À peu près.
Ok.
Alors moi, j'avais une question rapidement, parce que j'ai découvert ça là tout à l'heure quand tu parlais de la BD. Il y a une série télé qui s'appelle Shangri-La.
Ouais, moi je l'ai vu, ouais.
Elle est antérieure peut-être.
C'est très mauvais, ça n'a aucun rapport.
C'était ça ma question.
Ça n'a absolument aucun rapport.
J'ai le pitch, je vois aucun rapport.
C'est heroic fantasy avec des démons, des trucs,
Shangri-La,
c'est cheap au possible, t'as l'impression de voir le petit monde des Bow Rovers, quoi.
Shangri-La, de toute façon, c'est, si je ne me trompe pas, une cité
une cité perdue, Tomb Raider et compagnie
tibétaine, enfin
dans la série c'est Tokyo.
Ouais, Uncharted, ouais, tout à fait.
Le 3, il me semble que ça se passe à Shangri-La. Mais on ne parle pas de jeux vidéo.
Pas du tout.
J'enchaîne avec toi, monsieur l'ours.
Oui, bonsoir.
Une BD que j'ai également lue,
tout à fait,
pour mon plus grand plaisir. Qu'est-ce que t'en penses?
Moi, j'ai hâte parce qu'il conseille que des bons trucs, monsieur l'ours. Vas-y, je la mets déjà.
On s'est battu un peu avec Dr. Mad Geek, en tout cas dans les petits échanges mails pour savoir qui allait en parler. Donc c'est Bolshoi Arena, scénarisé par Boulet et dessiné par Assine.
Tu vois, dans la continuité russe de la thématique du mois
complètement
sur Kifim.
Ouais. Moi, ça fait un moment en fait que j'attends Boulet sur une œuvre un peu phare qui proposerait en tant que qu'auteur, quoi. Je le suis sur son blog, je le suis donc qui sont devenus ensuite des bouquins, les notes. Je le suis parce qu'il a dessiné sur Donjon de Trondheim et Svar, mais il a jamais vraiment produit espèce de chef-d'œuvre entre guillemets, ou ça serait un peu l'œuvre de la maturité entre guillemets. Et peut-être que Bolshoï Arena, même s'il est que au scénario, serait celle-ci, parce que on sent qu'il y a tous ces petites passions, ces hobbies, ces lubies même à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que c'est Bolshoï Arena? En fait, c'est très très proche dans l'idée de. J'allais parler de Ready Player One, mais
évidemment,
on va peut-être pas dire que c'est exactement la même chose.
Mais c'est très proche.
C'est un univers virtuel qui est consommé par l'intégralité de la planète. On est sur Terre dans un futur proche.
Et c'est Second Life un peu aussi. Quoi.
C'est Second Life exactement. Donc c'est un casque sur lequel on se plug dans son chez soi, tranquillement installé sur son canapé, et puis on arrive dans un univers virtuel extrêmement réaliste. La particularité de ce qu'on nous propose dans Bolshoï Arena, c'est que son attractivité numéro une, c'est que il te permet en fait de voyager dans l'espace et dans le système solaire. Et donc on suit le personnage de Marjorie qui en fait à la base est une étudiante qui fait de la recherche astronomique et qui donc pour avancer dans ses études cède du Bolshoï pour donc qui est le nom de ce truc virtuel pour du coup visiter des lieux qu'elle ne pourrait jamais visiter en réalité et donc un petit peu se donner des pistes pour ses études quoi. Donc déjà c'est un pitch un petit peu cool dans le sens où le jeu vidéo au service de l'éducation, ça casse un peu ce délire de effectivement le jeu vidéo comme simple amusement ou comme truc un petit peu décérébré en tout cas, enfin décérébré. Donc là on présente
aurait pu être une aventure spatiale sans le principe du virtuel.
Ouais, complètement,
tout aurait pu
ouais.
vraiment se passer.
Exactement, c'est très
mais
très
ils ont pris cet angle là, c'est ouais. super bien vu.
Et donc on va la suivre en fait dans la découverte de ce Bolshoï qu'elle a un peu mis du temps à accepter d'expérimenter, mais qu'elle finit par le faire sous l'impulsion de son ami, et donc elle va rencontrer à travers ça une galerie de personnages. Évidemment, il y a un aspect jeu vidéo qui est très prononcé, avec une notion un petit peu de guilde, de guerre entre différentes factions, de mini-jeux, où à un moment donné, elle va se retrouver dans une petite parenthèse en train de faire du shooting contre des zombies ou des choses comme ouais, ça. Donc,
je suis en train de regarder, il y a des références aux jeux vidéo.
Il y a clairement, bien sûr.
Je suis tombé sur une page,
il y a les équipements, il y a ton inventaire, il y a...
C'est ça qui est bien, c'est que...
Le respawn.
Ouais, on parlait hors micro, entre guillemets, tout à l'heure, de poser des règles à un univers et de les respecter dans l'univers de l'ASF. Là je pense qu'on est clairement là-dedans, il y a aussi un petit côté Matrix évidemment, mais puisque justement toutes les actions qui vont être réalisées dans le Bolshoï et notamment les actions de jeu, puisqu'à un moment donné elle se retrouve dans une équipe et le but en fait, ce qui se passe en général dans le Bolshoï, puisque tout ça est aussi une entreprise, bien sûr, comme Facebook, comme n'importe quel gros studio de jeu, ils vont ouvrir en fait des parcelles de ce jeu. Mmh. Et donc quand ils ouvrent des parcelles de ce jeu, c'est l'assaut de tous les joueurs sur ces nouvelles parcelles pour réclamer entre guillemets ces parcelles, les conquérir, parce que ensuite on peut dans le jeu créer des usines et en fait ça va créer de l'argent réel qui font qu'il y a des gens qui vivent concrètement grâce au Bolshoï. Mmh. C'est des choses qu'on peut voir aussi aujourd'hui dans l'e-sport ou même dans des jeux massivement multijoueurs où il y a des joueurs qui vont clairement farmer entre guillemets pour gagner leur vie quoi. Bref. Ouais. Mais tout ça c'est très bien décrit quoi, c'est pas juste tout d'un coup on se retrouve dans quelque chose qui est un peu survolé, on sent qu'il y a une vraie connaissance de la matière par Boulet et donc il y a des petits éléments quand on est joueur qui font sourire parce que on se dit ouais, là il a cette réflexion là, typiquement à un moment donné l'équipe va réaliser une action à un fuseau horaire particulier parce qu'à ce moment-là, ils savent très bien que les joueurs chinois et américains sont à un autre créneau horaire et donc sont moins présents et ils ont plus de chances de réussir. Bon, bah ça, c'est des choses auxquelles, évidemment, tu peux que penser si tu l'as réellement fait, entre guillemets, en jeu, ou en tout cas, si tu as bien réfléchi à la question, quoi. Bref, c'est super bien dessiné. Je connaissais pas du tout ce dessinateur. Il a un style très clairement inspiré des maîtres, on va dire, du manga.
T'as pas dit que c'était de Boulet ?
C'est scénarisé par Boulet.
Il l'a pas dessiné.
Mais il l'a pas dessiné, ouais. Donc il y a un petit côté inspiration vintage par rapport à ça, un peu manga, un peu Japanimation qui est vraiment intéressant.
Et en même temps, c'est hyper moderne.
C'est ultra minimaliste, mais ouais, c'est bourré de détails.
C'est ça, en fait. Ouais, exactement.
Alors c'est minimaliste, ouais, dans la couleur, dans le trait, mais
certains personnages, un peu, des fois,
c'est fouillis.
T'as plein de trucs dans les
vaisseaux. T'as une impression de où le mec, enfin, où t'as vécu dedans, quoi. Je veux dire, le mec, c'est...
Impressionnant.
Et l'histoire se laisse suivre très clairement. C'est vraiment un roman un peu origin story. On découvre l'univers avec le personnage, etc. Donc tous ces trucs-là sont toujours très agréables à lire parce qu'on on apprend un peu les règles de l'univers. Logiquement, il devrait y avoir une suite. A priori, le bouquin a eu pas mal de succès, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Je suis un petit peu gêné de petites choses qu'on apprend vers la fin du livre et qui semblent conduire l'histoire vers quelque chose un petit peu classique dans le traitement de son héroïne. Mais bon, on verra ce qu'ils en font par la suite. Mais clairement, c'est une bonne pioche ça fait plaisir. C'est tout ce qu'on, enfin en tout cas, c'est tout ce que j'aime moi dans l'aventure, la SF, le dessin, les références et en même temps quelque chose d'assez frais et d'assez neuf, quoi.
Ok.
Ouais, c'est un super résumé. Je trouve aussi, je trouve que l'auteur et le dessinateur ont réussi avec uniquement des choses qu'on a déjà vues, faire un truc complètement nouveau.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est ça, c'est frais quoi. Ok, okay. Et ben on sort un petit peu de la BD pour aller sur du vrai livre, hein,
avec des mots.
De temps en temps, voilà.
La littérature.
Avec des vrais auteurs quoi, pas avec des étudiants.
Pas avec des youtubeurs ou des blogueurs.
Alors pour le coup, je suis pas allé sur du vrai auteur. J'ai lu le dernier des Yakuza de Jake Adelstein.
Parce qu'il écrira pas de suite.
Eh ben, c'est déjà presque une suite en fait. Je sais pas. Vous avez peut-être entendu parler il y a pas très longtemps de Tokyo Vice.
Oula, ça me dit vaguement quelque chose.
C'était super intéressant. Donc c'est le travail d'un journaliste qui interview un ancien yakuza en fait, qui en fait voilà tout un roman. Et en fait, ce livre amène à celui-ci, donc le dernier des yakuza, parce que en fait finalement l'interview du dernier lui crée des problèmes quoi. Et maintenant l'auteur a les yakuza aux fesses. Et enfin tout un tas de gens, et pour se défendre, il va lui-même embaucher en garde du corps un ancien yakuza. Et alors c'est un vrai travail journalistique hein, donc le gars, le fameux yakuza, hein, Saigo, accepte le job en échange de la parole du journaliste d'écrire sa biographie. Et donc il y a un mélange comme ça de faits réels, c'est très 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 documenté, c'est incroyable. Donc à chaque page t'apprends des trucs sur le vrai monde des yakuza hein, qui est encore bien en place aujourd'hui. C'est affolant de voir à quel point c'est en fait une institution quasiment gouvernementale. On parle de bon, évidemment on parle de mafia, mais c'est presque gouvernemental quoi. Donc en gros le mec, donc c'est alors. Clairement, avant d'y aller, faut savoir que c'est pas facile à lire à cause de l'approche journalistique. C'est-à-dire que c'est parfois très saccadé, c'est très riche en informations, c'est plein de noms japonais, et des fois, tu sais, quand t'as des noms à rallonge japonais, machin, que t'es dans une phrase en pleine lecture et que ça se répète sur 3-4 paragraphes, ça devient dur à lire, en fait, ça devient dur à digérer, et puis tu sors un petit peu du truc, donc, soit ouais, tu t'accroches.
C'est un article de journal de quelques centaines de pages, quoi, des fois, peut-être.
Mais un peu romancé quand même, donc t'as de l'émotion, t'as de l'action, t'as beaucoup de profondeur, dans le truc. Et surtout, c'est autant Tokyo Vice c'était une parenthèse, autant là le dernier des yakuza, t'es sur l'évolution du monde des yakuza au XXe siècle presque. Quoi. Donc, enfin, ça dépeint ça à travers une histoire qui est très contemporaine, mais par contre, c'est très, alors c'est parfois ampoulé, et surtout dans le récit, dans la narration, tu passes du coq à l'âne, ça part, ça revient, ça machin, et ça rend encore le truc plus difficile à lire. Donc c'est pour ça que je dis vraiment que c'est pas facile à lire. C'est hyper intéressant, mais pas facile à lire. Et donc on découvre au fil des pages tous les codes, les rites, voilà la complexité des familles mafieuses. Il y a un truc que j'ai lu là-dessus en me renseignant un petit peu sur tout ça qui était assez intéressant, c'est Takeshi Kitano.
Grand nom. C'est le premier mec qui meurt dans le piège de cristal, non?
Ça aurait pu, ouais. Moi, j'adore Takeshi Kitano, hein, c'est une grande figure du cinéma japonais.
Takagi, pas Takeshi.
Lui putain, dit...
fais pas des trucs comme ça, parce qu'après, ça me fout mal.
Pardon, lui, il a dit à un moment, le Japon possède deux gouvernements, l'un est public et l'autre est celui qui donne les ordres aux institutions publiques. C'est le gouvernement de l'ombre. Et il parle évidemment donc des Yakuza. Aujourd'hui, il y a, je sais plus, ils sont 130 000 quand même au Japon, organisés en plus d'une dizaine de factions. C'est ça fait vraiment partie du quotidien de.
Dans le pendant japonais de tout le monde là-bas. La mafia italienne, quoi. C'est aussi intégré dans la société que.
Et donc, voilà, ce qui peut vous garder dans l'œuvre, c'est le côté hyper attachant des personnages qui sont des tueurs, des mercenaires, des mecs qui font la basse besogne et tout ça. Et pourtant, il te les rend hyper humains, soit à travers des faits divers très quotidiens, quoi, des choses qui pourraient arriver tous les jours, soit parce que, enfin, il y a une forme de mélancolie. Dans le truc et puis le code d'honneur surtout, quoi, c'est-à-dire que chaque section, chaque faction a un code d'honneur mais qui est pas le même honneur, donc ils considèrent pas tous les mêmes choses comme étant de l'honneur, et ça c'est hyper bien expliqué. Et du coup il y a un côté bah, t'es un peu plus dans les tontons flingueurs parfois que dans le parrain, quoi. Et c'est une approche assez intéressante du truc. Tu peux le lire sans avoir lu Tokyo Vice. Si t'as pas réussi le premier, t'arriveras clairement pas le second, quoi. Voilà. Ouais. C'est voilà, belle petite découverte. Je mets un petit je passe un petit clin d'œil à la librairie Pécari là, qui est encore pour quelques temps Place Sainte-Anne. Qui regorge, qui fourmille de choses incroyables, et surtout quand vous rentrez, il faut absolument aller voir le gentil monsieur qui s'occupe de ça, parce qu'il a lu à part 100% des trucs qu'il te propose dans sa librairie, et il sera bientôt délogé de là au profit d'une saleté de restaurant de chez Le Duf. Et donc si vous pouvez, voilà, aller acheter des bouquins en librairie en ville plutôt que sur Amazon, c'est bien d'aller chez lui à Rennes, bien sûr.
Un bon conseil.
Oui.
Voilà, ça, ATLZA, donc pas de petit clin d'œil bouquin, là, sur cet épisode.
Non, c'est disette.
Si personne a, voilà, on avait, un monsieur lourd était venu avec, évidemment, avec sa pile de BD, mais, on gardera.
C'est notre référent BD.
On garde ça pour un, parce que ça, là.
Il faut que j'essaie de jouer.
En dessous de Bolshoi Arena, il y avait Akira.
Et ça, ça vaut un épisode. Ça vaut un épisode.
Ouais.
Je suis peut-être pas même la personne qui en parle le mieux, mais cette édition est très sympa. Ouais.
Donc voilà, on vous dit au revoir pour cet épisode, et puis on se retrouve très bientôt pour un spécial jeu de société.
Et oui. C'est exactement ça.
Et donc, salut à tous, puis à bientôt, puis merci.
Salut,
à bientôt.